Radio Okapi.
Le ministre de la Justice refuse que le traitement de son dossier soit fait par le chef du parquet et ses magistrats. Raison avancée par Constant Mutamba dans sa lettre hier au procureur général près la Cour de cassation, partialité et inimitié du chef des parquets à son égard. Cette récusation est une manœuvre dilatoire qui ne va pas empêcher de poursuivre le traitement du dossier, retorque le parquet. Plusieurs blessés et des dégâts matériels, bilan provisoire d'une explosion la nuit dernière au centre de santé de Katiru, localité Bukombo, chefferie de Bwito au nord de Rutshuru. L'incident est survenu au cours d'un échange de tirs entre le M23 et les Wazalendo de CMC. Docteur Didier Mukendi, coordonnateur provincial de l'ASBL Santé Rurale, Sanru, Maniema, est l'invité de ce journal. Il va parler de la formation de 210 infirmiers A1 reconvertis en sage-femme pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile à Osse au Maniema. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitukabambi. Affaire Constant Mutamba, l'accusé recuse l'accusateur. Dans une lettre adressée hier au 10 juin au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, le ministre de la Justice, refuse que son dossier soit traité par le chef du parquet et ses magistrats au motif d'une partialité et inimitié à son égard. En revanche, le parquet général qualifie cette récusation de manœuvre dilatoire qui ne va pas l'empêcher de poursuivre le traitement du dossier. Explication Jeff Ngoy.
La récusation est le fait de dire non à un juge lorsqu'il est partial. On peut récuser le ministère public dans la phase juridictionnelle et non préjuridictionnelle. On peut récuser un magistrat du parquet, mais pas tous. En effet, le ministre exprime de vives préoccupations concernant l'impartialité du procureur général et des magistrats associés. Il les accuse de ne pas être justes ni neutres en raison de leurs intérêts personnels. Il soutient qu'il cherche à le nuire politiquement, estimant qu'un traitement équitable n'est pas garanti avec ce groupe. Il réclame qu'un autre groupe de magistrats jugés indépendants prenne en charge son dossier. Cependant, il nous revient du parquet général qu'il est le seul organe habilité à poursuivre un ministre. Il n'y en a pas deux au pays. Ce sera donc une récusation rejetée. Le parquet rappelle une jurisprudence en la matière. La récusation de l'entreprise Malta Forest contre tous les magistrats de la Cour suprême de justice déclarée irrécevable et non fondée par un arrêt rendu en 2011. Le ministre est accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars. Il devra probablement comparaître jeudi devant le même parquet.
Justice encore, le colonel Daniel Mukalai a purgé sa peine de 15 ans de prison depuis le 4 juin, mais il continue à être détenu car sa date d'arrestation juridique formellement reconnue est celle du 26 juillet, date de l'émission du mandat de son arrestation selon l'auditorat général des FRDC. L'un des condamnés du procès Chebeya et Bazana, Daniel Mukalai, réclame donc sa libération. Sa détention est devenue arbitraire d'après son avocat. Il fait savoir que l'auditorat général a écrit au Conseil national de sécurité qui avait détenu son client à partir du 4 juin 2010 en vue de retrouver le soubassement juridique de cette détention et en tirer toutes les conséquences de droit. Stéphane Keza fustige par ailleurs les déclarations de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme qui souhaite que son client reste toujours maintenu en prison malgré la purge de sa peine. Il est au micro de Jeff Ngoy.
À l'occasion de la commémoration des 15 ans depuis l'assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, la Voix des Sans-Voix a exprimé quelques revendications, entre autres le maintien en détention du colonel Daniel Mukalai au motif que ce dernier serait la personne indiquée pour pouvoir montrer à la famille les lieux de l'enterrement de Monsieur Fidel Bazana. Du point de vue de notre droit, aucune raison ne peut justifier le maintien en détention d'une personne qui a exécuté pleinement sa condamnation. Le besoin pour la famille de connaître les lieux de l'enterrement de Fidel Bazana est un besoin légitime. Mais rien en droit ne peut justifier qu'une personne soit maintenue en détention parce que on ferait des recherches pour connaître les lieux de l'enterrement. Il y a eu un procès, il y a eu une descente jusqu'au lieu supposé de l'enterrement, mais M. Mukalai n'était même pas associé à cette descente parce que, au vu des éléments du dossier, rien ne les liait à cette opération-là. Donc aujourd'hui, dire qu'il doit être maintenu en détention au motif que l'on doit connaître les lieux de cet enterrement, ça nous étonne.
Au Nord-Kivu, plusieurs personnes blessées par une explosion et des dégâts matériels. Bilan provisoire enregistré la nuit dernière au centre de santé de Katiru, localité Bukombo, chefferie de Bwito, au nord de Rutshuru. L'incident est survenu au cours d'un échange des tirs entre le M23 et les Wazalendo de CMC dans la soirée. D'après nos sources, certains blessés ont été conduits à l'hôpital de Mweso dans la nuit et d'autres sont restés au centre de santé de Katiru. Un calme apparent s'observe dans la contrée ce mercredi. Cependant, la situation reste incertaine, indiquent nos sources. Plus de détails avec vous, Blaise Ndonga Lamayanda.
Certaines sources affirment que les rebelles du M23, qui occupent cette localité depuis longtemps, ont été attaqués par les éléments du collectif des mouvements pour les changements des domis vers 20h locales. D'autres sources parlent d'une embuscade tendue aux rebelles près de l'hôpital ayant occasionné cet échange de tirs. C'est ainsi qu'un engin explosif a touché les centres de santé et blessé les civils, tandis qu'un réservoir d'eau qui dessert l'hôpital et le village a été sérieusement endommagé par les pare-balles, explique des témoins. La population de ces villages, surprise par les tirs, n'a pas pu se déplacer, ce qui explique un grand nombre de blessés, sans plus de précision pour l'instant. Difficile de joindre les responsables de cette structure de santé à cause de la faible couverture téléphonique dans cette zone. Rappelons par ailleurs que la situation sécuritaire s'est détériorée dans une grande partie de la chefferie de Bwito à la suite des affrontements à répétition entre les rebelles et les groupes armés locaux. Situation qui impacte négativement les conditions de vie des populations, d'après plusieurs sources locales.
Restons au Nord Kivu. Un accident de circulation s'est produit hier mardi dans la soirée au niveau du pont jeté sur la rivière Kiira dans le territoire de Masisi. Un véhicule avec à son bord 6 personnes a fait une chute d'une dizaine de mètres avant de plonger dans la rivière. Le bilan provisoire est des 2 passagers décédés et des blessés graves qui ont été transportés à l'hôpital. L'accident est attribuable à une défaillance technique. Les détails avec vous, Plantin Yambenga.
Des sources recoupées dans la région renseignent que le véhicule a violemment heurté l'un des montants du pont avant de se retourner plusieurs fois, puis de plonger dans la rivière. Le véhicule venait de l'axe Biambwe-Rubaya et s'est rendu à Goma, où tous les passagers y transportaient également des colis de minerais. Tous les passagers ont pu être repêchés de la rivière, parmi eux, une dame et son bébé, tous deux décédés. L'épave du véhicule peut encore être aperçue ce mercredi dans les lits du cours d'eau. Les ponts sur la rivière Kiira est situé entre les groupements de Kamuronza et Mupfunichanga, en chevrée des Baoundé, dans les territoires de Masisi. Il est grandement fréquenté par des véhicules et autres engins en provenance des Minova, Masisi et Walikale. Toutefois, depuis plusieurs mois, il s'est considérablement dégradé. Il n'y a presque plus de garde-fous, représentant un réel danger pour les usagers, déplorent les habitants de la cité des Sake et des autres contrées du territoire des Masisi. Des travaux de réparation s'imposent dans l'urgence, plaît-il.
L'Assemblée nationale a adopté au cours de la plénière d'hier mardi 8 projets de loi de ratification des accords de prêts, de crédit et de financement signés avec de partenaires bi- et multilatéraux de la RDC. Il s'agit de près de 2 milliards de dollars de crédit et de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et autres, destinés notamment à la construction de Inga 3 et de quelques villes menacées par des catastrophes naturelles dont Boma et Kalemie. Tout en saluant ces 8 projets de ratification des accords de crédit, dont les fonds seront destinés essentiellement au social des Congolais, les députés nationaux appellent à la vigilance du gouvernement pour que cet argent ne soit pas détourné. Michel Kifindangoy.
La particularité de ces crédits est qu'ils sont destinés prioritairement aux investissements et au social des Congolais, souligne le ministre des Finances, Doudou Fouamba.
C'est pour répondre à ce que nous avons pu observer lors des dernières pluies et de ce qui se passe actuellement dans la ville de Kalemie que votre gouvernement a négocié et obtenu ces financements. Ces projets prévoient notamment la prévention des inondations, la lutte contre l'érosion, la réhabilitation d'infrastructures publiques, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, le désenclavement des quartiers les plus vulnérables, ainsi que la valorisation du patrimoine culturel et touristique local.
Tout en approuvant ces crédits, les députés nationaux mettent en garde le gouvernement face au détournement de ces fonds. Jeannette Kavira.
Quels sont les garde-fous pour que cet argent ne finisse pas dans les poches des gens qui se les partagent et réfléchissent après? Il faudra que chaque 3 mois, une commission regarde si cet argent a été réellement utilisé. Un pays comme la RDC qui va demander 8 millions, alors que l'argent détourné est dans les hauteurs de 29 millions. Ça, c'est la honte de la République.
Notez que ces crédits d'environ 2 milliards de dollars viennent gonfler l'enveloppe de la dette publique du pays, estimée à ce jour à plus de 13 milliards de dollars.
Le projet d'appui à l'adoption de la proposition de loi foncière en faveur des droits des peuples dépendants des forêts en RDC a été au centre d'un atelier hier mardi à Kinshasa. Objectif, valider la stratégie commune des organisations de la société civile et les documents y afférents pour faire pression afin d'obtenir l'adoption de cette proposition de loi foncière. Proposition qui se trouve déjà au Parlement et alignée pour la session de mars. Plus de détails avec vous, Bertin Kassiama.
Préserver les droits des communautés locales et peuples autochtones, c'est le principal objectif de cette proposition de loi foncière. La responsable de Congo Watch ASBL, Mathilde Roffette, fait la lecture de la société civile sur ce qui bloque l'adoption de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale.
Au final, nous arriverons à découvrir la vérité et à avancer. Donc on essaye de voir quels sont les blocages. On va aller au niveau du gouvernement, de la primature, des parlementaires et le plus d'informations qu'on peut avoir et recouper, ça nous permettra d'avancer et de faire avancer les droits de ceux que nous défendons.
Selon Mathilde Roffette, les communautés locales sont défavorisées parce que les systèmes fonciers actuels sont dichotomiques. Elle revient sur l'enjeu de cette proposition de loi vis-à-vis des communautés locales.
Il y a le système écrit, il y a le système coutumier. Dans l'ancienne loi qui est toujours en vigueur, on attendait un texte réglementaire supplémentaire pour clarifier les droits coutumiers des communautés locales qui n'est pas arrivé 50 ans plus tard. C'est pour ça que le projet de loi y faisait la place aux droits des communautés pour que les droits coutumiers de ces communautés soient enfin reconnus au même titre que le droit foncier écrit. L'enjeu de cette proposition de loi, c'est que le coutumier devienne aussi fort que le droit écrit et ce qui protégera les communautés locales parce que la plupart fonctionnent sur du droit coutumier.
Pour rappel, la réforme foncière en RDC a été initiée en 2012.
Les chefs traditionnels de la province de la Tchopo s'engagent à ne pas vendre les terres ou les forêts, bien que faisant partie des éléments matériels de leur pouvoir. Cet engagement a été pris hier à Kisangani au terme d'un atelier organisé par l'ONG Tropenbos RDC, lequel a impliqué les chefs traditionnels de quatre territoires, Bafouassende, Banalia, Ubundu et Basoko. Cet atelier a porté sur l'acte d'engagement des chefs traditionnels à la valorisation de l'agro-business et la résolution pacifique des conflits au sein des concessions forestières des communautés locales. Un extrait de cet engagement est lu par Sa Majesté Jean-Francis Ilinga au micro de Jacques Moukonkole.
Nous, chefs traditionnels présents à cette table ronde, avons pris l'engagement, conformément à nos missions, à ne pas vendre les forêts ou les terres, mais de les protéger au profit de nos communautés locales, car elles font partie des éléments matériels de notre pouvoir. Assurer la pérennisation de nos terres et forêts coutumières et sa transmission des générations futures. Soutenir les initiatives de l'agro-business dans nos concessions forestières des communautés locales, sensibiliser nos communautés locales au respect des normes régissant les CFSL et restituer les résolutions prises lors de la table ronde d'aujourd'hui aux communautés locales concernées par la foresterie communautaire et les communautés voisines.
En santé, parlons de la vaccination de routine chez les enfants, un pilier essentiel pour leur protection d'après plusieurs experts de ce domaine. À Kinshasa, beaucoup de parents en comprennent l'importance et prennent donc des dispositions pour que leurs enfants suivent bien le calendrier vaccinal. Il existe toutefois d'autres familles chez qui l'administration du vaccin suscite encore des hésitations alimentées bien souvent par des fausses croyances. Nancia Tambo est allée à la rencontre des parents et des professionnels de santé. Voici son reportage.
La vaccination reste un sujet de débat au sein de certains ménages à Kinshasa. Si de nombreux parents comprennent l'enjeu, d'autres, influencés par les rumeurs, hésitent à faire vacciner leurs enfants. Ces parents donnent leurs avis.
Et les mythes qui disent que les vaccins, c'est quelque chose de mauvais, c'est venu pour tuer les enfants. En tout cas, moi, je crois que c'est faux.
Quand je fais ma part en tant que parent de vacciner mes enfants.
Mais c'est pas chez tous les enfants que je le fais.
Docteur Placide Kayombo, pédiatre, rappelle que les vaccins sauvent des vies et préviennent des maladies qui peuvent laisser des séquelles graves, voire entraîner la mort.
À la naissance, on protège cet enfant, on donne un vaccin, le BCG que tout le monde connaît, contre la tuberculose, et le VPO pour protéger contre la poliomyélite.
Le programme élargi des vaccinations, PEV, est conscient de la situation. Son représentant, Dr Gaston Satiro, explique les efforts en cours pour rattraper les enfants en retard des vaccinations.
Dès que l'enfant rate une dose, le parent se dit, bon, ce n'est plus important de continuer. Non, il faut signaler au prestataire de soins et on va organiser un rattrapage vaccinal pour restaurer la bonne protection contre les maladies évitables.
Selon les professionnels de santé, respecter les calendriers vaccinaux, c'est offrir aux enfants un avenir plus sûr.
Actualité internationale.
Au Ghana, grève des infirmières et des sages-femmes, un mouvement lancé le 2 juin pour dénoncer leurs conditions de travail. Le personnel médical en grève demande un 13e mois de salaire, des primes de carburant, des indemnités pour les postes en zone rurale et un soutien pour le renouvellement des licences, des mesures absentes du budget 2025. Conséquence de cette grève, la hausse de la mortalité. Les employés de la morgue de l'hôpital universitaire de Corlébou signalent une augmentation quotidienne des décès avec au moins 20 à 25 décès par jour depuis les débuts de la mobilisation. Le ministre délégué des Finances ghanéen affirme que la satisfaction des revendications coûterait plus de 165 millions d'euros, mettant en danger les efforts de redressement fiscal du pays.
L'invité.
Notre invité, c'est Dr Didier Mukendi, coordonnateur provincial de l'ASBL Santé Rurale Sanro Maniema. Il revient sur la formation de 210 infirmiers A1 reconvertis en sage-femme à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu. C'est pour réduire des cas de mortalité maternelle et infantile en hausse dans la province. Dr Didier Mukendi répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Didier Mukendi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Sanro Maniema accompagne l'Institut supérieur de technique médicale à la reconversion des infirmiers A1 en sage-femme. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième cohorte. Qu'est-ce qui vous pousse?
L'objectif est de pouvoir aider la province de Maniema pour avoir un personnel de santé qualifié dans les accouchements. L'objectif principal étant d'avoir le personnel qui peut contribuer sensiblement à la réduction de la mortalité maternelle dans notre province et puis dans notre pays de façon générale.
Quel constat avez-vous fait pour arriver à décider d'accompagner la province du Maniema en ce sens?
Lorsque vous regardez les données statistiques de notre pays, nous sommes à 547 femmes qui meurent sur 100 000 naissances vivantes. Et l'objectif pour ODD d'ici 2030, c'est atteindre moins de 70 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. Et pour y arriver, le constat a été fait que lorsqu'il y a un personnel de qualité qui dirige les services des accouchement, on peut arriver sensiblement à la réduction de la mortalité liée à l'accouchement chez les mères. C'est ce qui a poussé Sanru à mobiliser le financement avec l'agence suédoise de coopération internationale, développement international, pour pouvoir élaborer un projet qui va contribuer à cette réduction pour aller quand même vers cet objectif, cette cible qui est d'avoir moins de 70 femmes qui meurent sur 100 000 naissances vivantes.
Les taux étaient élevés avant votre opération. Maintenant que aujourd'hui vous êtes à la troisième cohorte, comment est la situation sur terrain?
Bon, bien qu'on n'a pas encore organisé les enquêtes depuis que nous avons commencé notre projet, mais déjà, lorsqu'on regarde quand même le résultat de 2024 au niveau de la province de Maniema, nous sommes déjà à 133 décès pour 100 000 naissances vivantes, même si on n'a pas encore atteint les 70, le deux chiffres pour 100 000 naissances vivantes, mais nous sommes quand même sur la bonne voie dans la province de Maniema avec le projet Bomoï.
Dans ce projet Bomoï, Sanri se fixe l'objectif d'atteindre combien de sages-femmes formées?
Donc, il était prévu depuis le début du projet de pouvoir former 210. Donc, avec cette troisième cohorte, nous avons atteint notre cible qui était des 210 sages-femmes formées au niveau des listes Kindu.
C'est-à-dire, le projet s'arrête là. Sanri est satisfait d'avoir atteint son objectif de former 110 sages-femmes.
Dis-moi, pour la formation, avec les financements que nous avons reçus des Suédois, le projet s'est arrêté donc à la fin du mois de mai 2025, mais nous allons continuer avec le projet durant le reste du mois de 2025 plus 2026 pour pouvoir accompagner les gens que nous avons formés au niveau des terrains. Mais dans l'entretemps, notre direction est à la recherche d'un autre bailleur qui peut nous donner des moyens pour pouvoir continuer avec cette formation au niveau des listes Maniema.
Sanrive lutte pour la mortalité maternelle et périnatale. Maintenant, avec 210 sages-femmes femmes formées et la démographie de la province du Maniema. Pensez-vous que ça va répondre vraiment à ces besoins?
La province de Maniema a 18 zones de santé avec 284 aires de santé ou maternité. Et nous pensons déjà avec 80% de ces sages-femmes qui sont formées, nous pensons quand même si chacune des sages-femmes peut être dans une aire de santé en train de faire convenablement son travail, on peut atteindre de bons résultats. Mais nous sommes en train de faire un effort. Si on a un autre bailleur, pourquoi ne pas former deux accoucheuses sages-femmes au niveau de chaque aire de santé pour atteindre même 500 apprenants qui sont formés comme sages-femmes. Comme ça, on a une moyenne de deux personnes formées par aire de santé. Mais pour le moment, déjà les 210 que nous venons de former sur 284 aires de santé, donc nous sommes déjà autour de 80% des aires de santé qui sont couvertes par les apprenants sages-femmes.
Mais le problème de mortalité maternelle et périnatale n'est pas seulement lié au personnel, mais aussi à l'équipement et aux infrastructures. Que pense Sanri en ce sujet?
Oui, ça c'est un des éléments. Dans notre projet, pendant la première et deuxième cohorte, nous avons eu à réhabiliter 60 maternités dans lesquelles nous avons intégré le projet. Nous avons équipé ces maternités et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à pouvoir approvisionner ces centres de santé en médicaments essentiels liés à la santé de la reproduction. Et nous accompagnons également la DEPES dans la supervision des activités au niveau de ces centres de santé à travers la coordination provinciale santé de la reproduction.
Docteur Didier Mukendi, je vous remercie.
Merci madame.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, à la mise en onde Alain Goy et à la coordination Élisée Chikota Chivueta.